journal. Bonsoir Yves de Camp.
Bonsoir. Parolier, dialoguiste, écrivain, il avait la plume sensible. Jean-Loup Dabadi est mort ce midi à Paris. Des chansons pour Julien Clerc, Paul Naref, Fouret Gianni, des scénarios pour Yves Robert ou Claude Sautet. Il avait touché à tout, avec succès. Il avait 81 ans. Le retour aux prières partagées pour les différents cultes ce week-end marquait la reprise des cérémonies religieuses à l'église et dans une moindre mesure à la mosquée. Le grand rabbin de France appelle en revanche à ne pas rouvrir les synagogues en fin de semaine pour ne pas prendre de risques. Dans ce journal également, la chanteuse et comédienne Camélia Jordana qui fustige les violences et l'impunité policière. Christophe Castaner dénonce des propos mensongers et honteux. Le syndicat de police Alliance veut porter plainte. Un millier de noms à la une du New York Times. Les victimes anonymes du Covid-19, représentant 1% des bientôt 100 000 morts enregistrés aux États-Unis. Et puis le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui dénonce une chasse aux sorcières à l'ouverture de son procès pour corruption. Enfin, la météo, chaud devant les prochains jours au nord comme au sud. Ça va monter dès demain, nous dira Jean-Michel Golinski.
France Inter.
Il était un touche-à-tout de grands talents dans la chanson, le cinéma, la littérature. L'auteur et académicien Jean-Loup Dabadi est mort ce dimanche à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il avait 81 ans. Reggiani, Paul Naref ou Julien Clerc pour la chanson, Guy Bedos pour les sketchs, Yves Robert ou Claude Sautet au cinéma. Il s'était essayé à tous les genres avec succès, Stéphane Capron.
On ira tous au paradis, moi.
Quand il écrit cette chanson à Michel Polnareff en 72, Jean-Loup Dabadi n'imagine pas qu'il sera reçu sous la coupole de l'Académie française 36 ans plus tard. En une trentaine de films et quelques centaines de chansons, il a raconté la France des années 70-80 à un univers tendre et nostalgique. La crème de la crème de la chanson toque à sa porte pour interpréter ses textes, de Barbara à Michel Sardou, en passant par Claude François, Juliette Gréco, mais aussi Jean Gabin.
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme.
Dabadi, au cinéma, ce sont les comédies sentimentales de Claude Sautet ou les films de potes d'Yves Robert où règne la joie de vivre et l'amitié. Scénariste, parolier, auteur de théâtre, Jean-Loup Dabadi a aussi écrit des sketchs pour Muriel Robin ou Guy Bedos.
Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'emballe sec.
Et puis la carrière de Jean-Loup Dabadi est indissociable de celle de Julien Clerc. Ils travailleront ensemble sur une dizaine d'albums et lui écrira l'un de ses plus grands succès.
Femme, je vous aime. Femme, je vous aime.
Ah oui, c'est un pan de ma vie qui s'en va. À simplement commenter Julien Clerc ce soir, pour qui Jean-Loup Dabadi avait donc écrit quelques-unes des plus belles chansons, comme également ma préférence. Le chanteur se souvient de l'une d'ailleurs de ces chansons qui se terminait par la phrase « À la fin, je pleure ». C'est de circonstance. Jean-Loup Dabadi qui venait de terminer l'adaptation pour le cinéma d'un roman de Georges Simenon, « Les volets verts », dont Gérard Depardieu doit tenir le premier rôle. Il a mis des paroles sur nos vies, a également commenté joliment Éric Orsenna, également académicien, sur nos vies, nos sentiments, nos déchirures et nos espérances. Jean-Loup Dabadi, on l'a dit, était un dialoguiste et parolier, mais aussi l'auteur de livres et de pièces de théâtre comme Quelque part dans cette vie, pièce adaptée d'un roman d'Israël Horowitz, dans laquelle la comédienne Emmanuelle Devos tenait le rôle principal à côté de Pierre Arditi.
Le mot charmant est le mot pour qualifier Jean-Loup. C'était quelqu'un de très très attachant, très affectif. Et quand on se rend compte, tous les films qu'il a écrits, les dialogues qu'il a écrits, les chansons, les sketchs, c'était assez impressionnant. Mais lui, bon, il était toujours émerveillé, oui, toujours reconnaissant envers les acteurs de porter ses mots, de porter ses phrases. C'est quelqu'un de très touchant. Il connaissait bien les acteurs, voilà. Je pense qu'il écrivait vraiment très très bien pour eux. Je pense qu'il n'en revenait pas d'avoir rencontré tous ces gens, Guy Bedos, Sautet, Romy Schneider. Il parlait quand même beaucoup de Romy Schneider. C'était quelqu'un de très souriant. Je sais pas s'il avait peut-être une grande mélancolie, mais en tout cas, ça ne passait que par la politesse du sourire.
Emmanuel Devos avec Jacqueline Pétrose.
Il est 19h05 sur France Inter, la suite du journal Yves Decamp.
Un millier de noms à la une du New York Times ce dimanche, alors que les États-Unis approcheront dans quelques jours de la barre symbolique des 100 000 morts du Covid-19. Le journal a fait le choix d'honorer la mémoire d'1% d'entre eux, des anonymes qui n'étaient pas de simples numéros, écrit le quotidien américain, en évoquant d'une phrase ce qu'a été leur vie. Grégory Phillips aux États-Unis.
Ces noms remplissent toute la une, mais aussi trois pages intérieures. Un millier de noms, 1000 morts, qui ne représentent que 1% du nombre total des victimes du Covid-19 aux États-Unis. Et parce que ces gens ne sont pas que des statistiques, à chaque fois, le New York Times ajoute une courte description. Jordan Driver Haynes, 27 ans, Cedar Rapids, Iowa, jeune homme généreux avec un sourire enchanteur, ou encore Rona Gertz, 71 ans, du New Jersey, qui a contribué à l'essor de l'aérobic dans le pays. Cette une est publiée à la veille de Memorial Day, jour férié aux États-Unis, dédié à la mémoire des soldats américains tombés au combat. Et alors que dans quelques jours, selon le décompte de l'université Johns Hopkins, la barre symbolique des 100 000 victimes sera franchie. Donald Trump, lui, est pour la première fois hier depuis 2 mois retourné jouer au golf dans l'une de ses propriétés de Virginie. Et en lettres capitales, le président écrivait hier soir sur Twitter « Transition vers la grandeur », quasiment un slogan pour un redémarrage le plus rapide possible de son pays. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Les États-Unis qui comptent plus d'1,5 million de cas positifs au coronavirus et le plus grand nombre de décès au monde, au total, mais pas en pourcentage de la population. Cette semaine, cela dit, l'épidémie s'est déplacée vers le sud, en Amérique latine, notamment au Brésil, où le nombre des contaminations et des victimes a fortement augmenté. Plus de 22 000 morts recensés à ce jour et plus de 350 000 personnes contaminées. En France, ce week-end de déconfinement, premier long week-end, aura été marqué par la reprise des cérémonies religieuses, des messes nombreuses ont pu être célébrées dans de nombreuses églises qui s'y étaient préparées. L'Aïd el-Fitr dans les quelques mosquées qui ont eu le temps de s'organiser à Levallois. C'est dans un stade que les fidèles musulmans sont allés prier en respectant scrupuleusement les consignes de sécurité. Pas sûr en revanche que les synagogues soient toutes rouvertes en fin de semaine. Pour le grand rabbin de France, Haïm Korsia, mieux vaut ne pas prendre de risques. Il recommande de célébrer les fêtes de Shavuot, de la Pentecôte, de manière individuelle.
L'idée, c'est de dire, on passe le cap de la Pentecôte et on réouvre comme c'était prévu, comme c'est d'ailleurs toujours regardé le texte du gouvernement. C'est la préconisation, c'est début juin. On reste calé sur cette date. Ça nous permettra d'ouvrir sur des plus petits modèles que Shavuot, c'est-à-dire la Pentecôte, où par nature, tout le monde veut venir écouter les 10 commandements. Je le conçois et ça me manque moi-même. Mais se ruer sur les synagogues, ça serait la pire des choses. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé en Allemagne dans une église, puisqu'une église a réouvert il y a à peu près 2 semaines, et il se trouve qu'il y a un cluster terrible dans cette église avec plus de 40 personnes infectées. Donc ça veut dire que dans le culte, il y a un phénomène de transmission potentielle assez important. Donc il faut juste tenir compte de ça. Et c'est logique. On n'est pas comme dans un magasin où on entre, on fait les courses pendant 10 minutes sans croiser personne, ou même en croisant, mais c'est furtif. Là, vous êtes assis, même si vous êtes à plus d'un mètre de quelqu'un, vous chantez. Qui dit chant dit forcément risque de postillement. Donc même s'il y a les masques, il y a toujours quelque chose qui est lors du risque et on ne veut prendre aucun risque.
Le grand rabbin de France avec Julie Pietri. En politique, une expression qui fait toujours recette, la République des copains, remise en avant ce dimanche par le président des Républicains, Christian Jacob, en direction du ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, lequel, après son élection à la mairie de Tourcoing, a choisi de rester au gouvernement, avec l'accord, bien sûr, d'Emmanuel Macron. Pour Christian Jacob, il faut savoir ce qu'on veut et se tenir aux règles qu'on a soi-même fixées. Sur ce point, d'ailleurs, Laurence Perron, on n'a pas entendu le plaidoyer très percutant du côté de la défense.
Rien de plus efficace qu'un ancien ami de droite pour vous tailler un costume sur mesure. Le patron des Républicains, Christian Jacob, s'en donne à cœur joie dans une interview aujourd'hui à l'AFP. C'est la République des copains, assène-t-il. Il ne peut y avoir deux poids deux mesures. Il met aussi un petit coup pour le président. Aussi, sans doute, je cite, dans un tel affaiblissement qu'il est incapable de tenir son groupe parlementaire comme il est incapable de tenir ses ministres. On sent aussi que la défense au gouvernement est fragile. Elisabeth Borne, la ministre de la transition écologique, interrogée dans Questions politiques.
Je pense qu'effectivement, la règle, elle a été qu'on se consacre pleinement à sa tâche de ministre.
Mais Gérald Darmanin, qui est maire et ministre.
Écoutez, Gérald Darmanin, il vient effectivement d'être investi à nouveau comme maire de Tourcoing. Pour le moment, je vais vous dire, je pense qu'il y a d'autres urgences que de savoir s'il pourra durablement rester et maire et ministre. Enfin, on n'est vraiment pas dans le moment de poser ce genre de questions, je pense.
On a connu effectivement soutien plus chaleureux au gouvernement.
Laurence Perron, s'agissant du second tour qui sera donc organisé le 28 juin, pourquoi ne pas le faire par voie électronique, au moins dans les communes qui le souhaitent? C'est ce que propose François Bayrou en soulignant qu'on vote par Internet pour les associations de pêche ou les organisations syndicales et que donc, pour le président du Modem, voter chez soi sans prendre de risque augmenterait la participation. On en parlera dans le téléphone sonne, j'imagine.
Affirmatif. Et le
dans
numéro,
un instant.
Et le numéro, c'est le 01 45
24 7000.
Bravo Yves.
En attendant, cette semaine, ce sont les annonces sur les vacances d'été qui sont très attendues. Les Français sont invités à rester en France, a répété ce midi sur France Inter la ministre Elisabeth Borne. Mais ils peuvent réserver pour juillet et août, comme l'avait déjà dit le Premier ministre. Dans la semaine également, devrait être fixée la date de réouverture des bars et restaurants. Mardi, le président de la République annoncera lui-même le plan de soutien à la filière automobile. Un peu plus tard, le ministre de la Culture, un plan de soutien pour le secteur de l'édition. Et puis demain sera donné le coup d'envoi de ce qu'on appelle le Ségur de la Santé. Concertation générale des milieux de la santé, avenue de Ségur au ministère. Dans la série des propos qui font polémique, on peut citer ce soir également Camélia Jordana, la chanteuse et actrice, sans filet hier soir chez Laurent Ruquier dans l'émission On n'est pas couché, pour dénoncer des violences policières et ce qu'elle considère comme une stigmatisation des populations noires et arabes.
Moi je ne parle pas des manifestants, je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C'est un fait. Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j'en fais partie. Aujourd'hui j'ai les cheveux. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France.
Oui.
Vraiment.
Mais fondamentalement, n'oublions pas que la plupart du temps, ces gens-là font très bien leur travail et que surtout, globalement, ils assurent notre sécurité et que s'ils n'étaient pas là,
mais je l'entends, je remets pas ça en question. Je suis simplement en train de vous dire que peut-être que si certaines mesures étaient prises, plutôt que d'avoir des non-lieux en permanence à chaque fois qu'un homme ou une femme, enfin, généralement, c'est les hommes qui se font tuer, noir ou arabe ou simplement pas blanc, s'il y avait autre chose qu'une Assa Traoré qui se fait mettre en examen.
Oui, mais j'entends.
Si on avait autre chose que
ça choquant,
image, peut-être que les flics ne seraient pas détestés, en fait.
Voilà, Camélia Jordana en débat avec Philippe Besson sur France 2, des propos qualifiés de mensongers et honteux par le ministre de l'Intérieur, qui a répondu sur Twitter, propos qui alimentent la haine et la violence et appellent une condamnation sans réserve, écrit Christophe Castaner. Ce que souligne aussi le syndicat de police Alliance et son secrétaire général Fabien Vandenmelric, interrogé par Emmanuel Leclerc.
On n'a pas besoin de ça justement dans ce genre de quartier, sauf encore une fois de plus attiser la haine anti-flic. Donc évidemment que ce n'est pas une couleur de peau, une histoire de couleur de peau. Évidemment que les policiers, c'est une police républicaine et doit faire en sorte d'appliquer les lois et les règlements dans tous les quartiers. Arrêtons de tels propos, arrêtons de dire de telles polémiques, à part faire le buzz et peut-être que cette chanteuse en a besoin pour exister. En tout cas, elle n'a pas eu aujourd'hui les victoires de la musique, mais elle a eu la victoire de la haine anti-flic. Et quant au présentateur, le présentateur, lui, c'est pas mieux. Son attitude est inacceptable parce qu'il n'a rien dit. Il a donc indirectement cautionné les propos. Nous avons saisi deux personnes, le procureur et le ministre. Le ministre doit déposer plainte parce que, justement, les propos qu'il condamne sur Twitter ne suffisent plus. Il doit y avoir un dépôt de plainte et nous devons nous constituer partie civile. Et nous avons saisi, bien entendu, le procureur de la République afin qu'il poursuive et qu'il condamne aussi ses propos.
Le syndicat des commissaires de la police nationale dénonce de son côté le témoignage consternant d'une nouvelle star de la bêtise. À l'inverse, SOS Racisme réitère ce soir sa demande que soit ouvert le chantier de la lutte contre le racisme au sein de la police et de la gendarmerie.
19h13, la suite du journal Yves Decamp.
En Israël, le dos droit, la tête haute, c'est l'image d'un Premier ministre combatif qu'a voulu donner Benjamin Netanyahou à l'ouverture de son procès ce dimanche à Jérusalem. Le premier procès pour corruption d'un Premier ministre en fonction, Benjamin Netanyahou qui vient de débuter officiellement son cinquième mandat et qui dénonce une chasse aux sorcières menée par la gauche pendant qu'au dehors, ses supporters s'étaient rassemblés devant le tribunal. Frédéric Mettezo nous appelle de Jérusalem.
Les plaidoiries de la défense ont commencé dans la rue. Ils sont quelques centaines venus soutenir celui qu'ils appellent Bibi, le roi d'Israël.
La gauche en Israël est hypocrite. Il y a des gens qui sont membres d'une secte anti-Bibi. Ce qui est important pour eux, c'est qu'ils ne soient pas au pouvoir.
Puis, à son arrivée, Benjamin Netanyahou prend la parole pendant près de 10 minutes. Sans masque, mais entouré de ses ministres les plus fidèles, tous masqués, il dénonce des accusations ridicules et s'en prend à la justice et aux médias.
Je demande, j'exige, rendez tout public. Chers représentants des médias, mais je veux que le public puisse être informé de toute la vérité, pas par le filtre des correspondants de cour du parquet.
Pendant l'audience d'à peine une heure, Benjamin Netanyahou porte le masque. Immobile, il assiste à un débat technique sur le calendrier et sur la nature des preuves, rien sur le fond. Ses avocats demandent 3 mois pour préparer la suite du procès. Les juges ne leur accordent qu'un mois et demi. Prochaine audience le 19 juillet, mais sans Netanyahou qui obtient une dispense. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Des milliers de manifestants à Hong Kong ce dimanche. Les militants pro-démocratie ont réussi leur mobilisation contre une loi du régime de Pékin qu'ils jugent attentatoire aux libertés. Les forces de l'ordre ont fait usage de lacrymogènes et sorti les canons à eau. Elles annoncent au moins 180 arrestations. Retour en France pour la fin d'un long week-end qui aura marqué pour beaucoup le premier moment de vraie liberté retrouvée à la campagne de préférence. Pour ceux que le retour au grand air démangeait, les franciliens en particulier, partis en masse se ressourcer dans les départements voisins, à moins de 100 km bien entendu, ce qui laissait pas mal de choix. Illustration dans le département de l'Eure, Théophile Pedrola.
À Lyons-la-Forêt, petit village à seulement 35 km à l'est de Rouen, on est dans le rayon autorisé autour de Paris. Avec 300 km de chemin de forêt, le maire Thierry Plouvier a reçu beaucoup de visiteurs et il a voulu organiser les choses en conséquence.
On avait agrandi un parking, réouvert les toilettes publiques, on a doublé les corbeilles de propreté, donc ça s'est bien passé.
Aux Andelys, à seulement 20 km de l'Île-de-France, on a l'argument de la proximité et du château Gaillard, toujours attractif, le maire Frédéric Duché.
Énormément de monde sur le château Gaillard, sur les bords de Seine, beaucoup de regroupements, pas forcément de distanciation physique respectée, quelques excès et débordements de jeunes qui se jetaient dans la Seine pour se baigner. Il y avait la police municipale et des renforts de gendarmerie pour canaliser et surveiller ce qui se passait aux alentours de château et aussi sur les bords de Seine.
Du succès, mais quand même un grand regret.
Les restaurants n'étant pas ouverts et les bars n'étant pas ouverts, les gens sont venus avec des paniers pique-nique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les touristes viennent consommer sur place les produits locaux, bien entendu.
Les restaurateurs ont de quoi se préparer. Le week-end de la Pentecôte, la semaine prochaine, sera lui aussi animé.
Avec peut-être pour les restaurateurs une bonne nouvelle donc dans la semaine. Allez, cette crise du coronavirus aura été l'occasion aussi pour beaucoup de sportifs notamment d'exprimer leur solidarité. Parmi eux, tout particulièrement le basketteur Rudy Gobert, basketteur des Utah Jazz. Il fut le premier joueur de NBA touché par le Covid et depuis, il s'est pleinement engagé dans la lutte par toute une série de dons à différentes associations. Ce soir, il sera encore aux manettes en organisant un jeu vidéo de guerre. De guerre, mais c'est pour la bonne cause, Cédric Guillou.
Le basketteur français le mieux rémunéré de la planète est aussi un accro des jeux vidéo. Et durant la suspension de la NBA, Rudy Gobert s'en donne à cœur joie. Ce soir, il organise à 20h heure française une session de Call of Duty Warzone, un jeu de guerre, avec plusieurs de ses confrères de l'équipe de France.
Bah, je viens, on se met derrière le mur. Est-ce que vous avez des roquettes? Joe, t'as des roquettes?
Tous les fonds récoltés durant cette session seront reversés à la fondation de Rudy Gobert, Rudy's Kids, fondation pour la protection de l'enfance.
Fusil d'assaut ? Ah non, mitraillette, tiens, pour tout.
Premier joueur NBA touché par le coronavirus, le pivot français des Utah Jazz s'est déjà montré généreux durant cette crise. En cette fin de semaine, il a fait un don de 100 000 euros au Secours Populaire, association avec laquelle il est lié depuis 5 ans. Sur le site du Secours Populaire, on trouve d'ailleurs de nombreuses vidéos de Gobert en compagnie d'enfants défavorisés.
Je suis venu ici pour échanger avec les jeunes principalement. Pour moi, c'est important de les inspirer et de leur montrer que n'importe qui peut y arriver dans la vie.
Mi-mars, Rudy Gobert avait déjà fait un don de 500 000 dollars destiné aux employés de son club, les Utah Jazz, aux familles touchées à Oklahoma City, où il était confiné, ainsi qu'aux autorités sanitaires françaises.
Rudy Gobert, qui avait été testé positif le 10 mars, la veille, il avait fait une mauvaise blague. Interrogé sur l'épidémie, il s'était amusé à toucher tous les micros et tous les enregistreurs, ce qui avait entraîné l'arrêt du championnat de basket américain, ce dont il avait dû ensuite s'excuser en reconnaissant avoir fait preuve de négligence. Voilà pour la petite histoire.
Deux blagues, effectivement. Merci beaucoup Yves Decan. Dans un instant, le temps.
La météo, avec la Fondation de France, la PHP et l'Institut Pasteur, qui unissent leurs forces pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes vulnérables. Tous unis contre le virus, sur fondationdefrance.org.
La vision de Jean-Michel Golinski.
Les indicateurs de température des modèles de prévision nous indiquent que des valeurs de plus en plus élevées ces prochains jours, voire même chaudes au nord comme au sud, c'est-à-dire supérieures à 25 degrés à partir de mercredi. Déjà demain, les valeurs vont gagner par rapport à aujourd'hui avec une vingtaine de degrés près de la Manche, 22 à 26 dans la moitié nord, avec des pointes à 28 sur les régions méridionales. Il est par exemple prévu 28 à Marseille, Agen et Montpellier, 22 à Abbeville et à Cherbourg, 24 à Lille, Paris, Orléans et Nevers, 26 du côté d'Angers, de Nantes, de Perpignan et de Montélimar. Les brouillards vont rapidement disparaître sous l'effet du soleil généreux en début de matinée, mais par la suite, les nuages vont donner une teinte un peu plus variable au nord de la Seine et au sud de la Garonne, avec éventuellement une ondée sur les Pyrénées orientales.